question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Cette semaine, ce mercredi 17 avril, l'Église catholique fête la mémoire de Sainte Kateri Tekakwitha j'en profite donc pour parler avec le directeur de Mission Chez Nous, qui fête ses 30 ans. Mathieu Lavigne est avec nous, vous le connaissez, puisque l'émission Confluent fête son 3e anniversaire cette année. D'abord, Mathieu, bonjour.
Bonjour, Mario.
Alors, merci beaucoup d'accepter l'invitation à la question d'aujourd'hui.
grand merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de faire de la radio avec vous, Mario.
Mathieu, 30 ans. Bien sûr, vous n'êtes pas arrivé il y a 30 ans, mais non. combien d'années déjà, Mathieu, à la direction de Mission Chez Nous?
C'est donc un 3 ans fort, donc 3 ans et demi environ.
30 ans. Bon, moi, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, 30 ans, c'est très jeune dans un organisme. C'est très jeune pour les gens également. Il semble bien qu'on soit au début de quelque chose, dans la mesure où vous avez eu à gérer tout un dossier ces dernières années, celui de la guérison, réconciliation, rencontre entre les nations. C'est en fait une démarche qui vient tout juste de commencer. D'abord, comment vous, Mathieu, avez-vous reçu j'allais dire la visite du pape, mais toute cette nouveauté, parce qu'il y a 30 ans en fait, quand Mission Chez Nous a été fondée, j'imagine qu'on ne pensait même pas à ce qui s'est déroulé en 2022.
Je pense que dès le début de la création de la fondation de Mission Chez Nous, il y avait cette idée à tout le moins de créer un organisme qui allait ancrer son action dans le dialogue, dans la rencontre, dans la peut-être pas la réconciliation, le mot était peut-être moins utilisé à l'époque, mais clairement dans un désir de rencontre. Vous savez, si on remonte il y a 30 ans, Mission Chez Nous est fondée dans l'année pastorale de 1993-94, donc on est quelques années après la crise d'Oka, donc c'est certain que ça a teinté assurément la réflexion des fondateurs. Mais sinon, pour répondre plus directement à votre question, Mario, c'est vrai que les démarches de guérison, de réconciliation, elles peuvent nous paraître toutes récentes, toutes jeunes. Je pense qu'elles le sont. Il y a eu des démarches de réconciliation qui sont faites auparavant, qui remontent. On peut penser aux excuses des Oblats dans les années 90, la Commission royale sur les peuples autochtones également dans les années 90, la Commission de vérité et réconciliation que vous connaissez bien, Mario, pour avoir couvert cette commission, donc qui est active de 2008 à 2015. Donc, des démarches de réconciliation qui étaient déjà bien présentes dans ces années-là. Mais nous, collectivement, j'ai l'impression qu'on s'est un peu réveillé dans les dernières années, avec des événements comme le décès de Mme Joyce Echaquan, la visite papale, la découverte des tombes anonymes dans l'Ouest canadien. Donc, c'est tous des éléments, je pense, qui font en sorte que là, on bouge vraiment. Avant, il y avait des commissions d'enquête, des commissions royales, mais collectivement, je pense que c'est maintenant qu'on se met à bouger vraiment sur ce chemin de réconciliation.
Donc, Mission Chez Nous est là pour faire bouger les choses. Mission Chez Nous, d'abord, quelles sont vos responsabilités? Quels sont les travaux que vous mettez en place? Quelles sont les manières, donc, d'être avec les Premières Nations?
En fait, Mission chez nous, je dirais une double mission. La première, c'est vraiment de soutenir moralement, financièrement, la présence pastorale en milieu autochtone. Donc, on va chaque année faire une collecte de fonds et redistribuer des fonds dans, bon an, mal an, je dirais une vingtaine de communautés chrétiennes en milieu autochtone. En 2004, on va soutenir 23 missions en milieu autochtone sous la responsabilité de 9 diocèses. Alors, on va soutenir... alors, c'est très concret, hein? On va donc payer, par exemple, les honoraires de prêtres et d'agents de pastoral, d'intervenants pastoraux dans les communautés autochtones. On va aider parfois à rénover, faire des réparations sur les lieux de culte. Là, cette année, entre autres, on va soutenir la communauté d'Odanak, justement, dans des travaux sur leur église. Donc, c'est très, très concret comme soutien. Sinon, le soutien moral qu'on apporte, c'est soutenir les intervenants pastoraux qui sont sur le terrain. Entre autres, on a créé des cercles de parole qui deviennent un peu comme une ressource de soutien par les pairs.
Ouais.
Donc, les intervenants pastoraux d'un peu partout au Québec se rencontrent aux 6 semaines via Zoom pour vraiment échanger sur ce qu'ils vivent sur le terrain. Et il y a aussi, évidemment, un travail de sensibilisation qui se fait à Mission chez nous. Donc, c'est peut-être l'autre volet de notre mission. Sensibilisation, entre autres, par l'émission de radio Confluent, par la création d'un bulletin qui s'appelle aussi Confluent, qui est diffusé auprès de nos donateurs, donatrices, mais aussi en ligne. Donc, création de matériel liturgique aussi, adapté pour permettre aux communauté chrétienne à l'automne de souligner des moments forts, notamment la mémoire de Sainte-Catherine-Tekakwitha, en utilisant du matériel adapté pour l'occasion.
Donc, vous arrivez à un certain moment, il y a 3 ans et demi, et là, vous arrivez et vous êtes directeur de mission chez nous. Je sais que la question est un peu délicate, mais j'aimerais quand même l'aborder un peu avec vous. Le thème lui-même, mission chez nous, je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise maintenant, surtout maintenant, en fait, avec tout ce que l'on connaît, la connotation que peut prendre le mot mission, un mot qui a d'ailleurs, soulignons-le, évoluer dans l'Église, mais qui est toujours quand même, surtout quand on le lit avec les Premières Nations, qui peut avoir une certaine connotation négative, non?
Oui, le mot mission, c'est certain que en milieu autochtone, un peu comme celui d'évangélisation d'ailleurs, peut être rapproché d'une certaine attitude coloniale. Hein? Je pense que c'est ce que vous évoquez, Mario.
Oui.
Je dirais que oui, ce mot-là peut faire problème. La notion de « chez nous » aussi peut être problématique, hein, parce qu'elle renvoie à la notion de territoire. Donc, « chez nous », chez qui, à qui appartient le territoire. Alors, donc, oui, il y a une réflexion sur le nom. C'est certain, pour ce qui peut porter comme charge symbolique. En même temps, quand je suis arrivé à Mission « chez nous », j'ai communiqué avec Suzanne Loisel, hein, que vous connaissez bien.
Oui.
Qui était à l'entraide missionnaire, donc une auxiliaire, une sœur auxiliaire, qui est très engagée socialement. Puis je lui avais demandé, mais Suzanne, toi, tu le reçois comment, le nom de Mission chez nous? J'étais curieux de réfléchir avec elle à cette question-là, étant donné qu'elle, elle avait dirigé l'entraide missionnaire.
Oui.
Donc, elle aussi, la notion de mission était dans le nom. Puis Suzanne m'avait dit spontanément, Mathieu, c'est surtout les actions et l'attitude de l'organisme qui vont parler.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Donc dans les premières années, là, bon, ça fait seulement 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis à Mission chez nous, je me suis concentré sur ça. Ça ne veut pas dire que le nom ne changera pas, mais à tout le moins, j'essaie vraiment, et on essaie en équipe, à ce que les actions et l'attitude de Mission chez nous reflètent vraiment notre posture, qui est tout sauf coloniale. Puis j'ajouterais à ça aussi, ça me rappelle une sortie médiatique qu'avait fait Jeffrey Papati, qui est un Anishinaabe très impliqué dans les communautés de Lac-Simon, qui est ici à Kik. Puis Jeffrey Papati avait dit, « Ouais, mais vous savez, chez nous, c'est chez vous aussi. »
Ah oui?
Et donc, ça illustre cette idée d'un territoire qui est à occuper d'une manière concertée, un territoire à partager. Donc ça, je le vois comme ça.
Donc c'est intéressant, Mathieu, parce que ce que vous dites, c'est que pour dans le futur, dans l'avenir en fait, nations québécoises et nations autochtones auront à se parler encore bien davantage, donc.
Tout à fait, tout à fait. Ben, notamment au niveau du développement économique, hein, on le voit avec ce qui était annoncé du côté d'Hydro-Québec, par exemple, ou des minières ou des compagnies forestières. Donc, certainement, il y a un dialogue à avoir en tout temps. En fait, c'est vraiment de vivre ensemble là, dont on parle. Ce territoire-là, il faut apprendre vraiment, nous, à Lacton, à le partager et à réfléchir le développement avec nos frères, nos sœurs autochtones.
Mathieu, on fait une pause et on continue tout de suite après.
Parfait.
Vous êtes toujours à l'émission Question d'aujourd'hui. Je me trouve en compagnie de Mathieu Lavigne, qui est directeur de Mission chez nous, donc qui depuis 30 ans cette année, travaille de manière pastorale, entre autres, c'est vraiment l'aspect le plus important, auprès des nations autochtones, avec les nations autochtones. Hein, dire auprès, ça veut peut-être dire qu'on est un peu au-dessus, alors qu'avec, eh bien, c'est avec les nations autochtones. Et Mathieu, je pense que ça, vous me le confirmez, c'est ce qui se passe présentement avec Mission chez nous.
Tout à fait, tout à fait. Les intervenants pastoraux qui sont sur le terrain marchent aux côtés vraiment des communautés dans lesquelles ces personnes-là œuvrent. Je pense par exemple à des gens comme Jean Gagné, Jocelyne Guénard, Alain Bilodeau qui œuvrent du côté d'Opitchouane, qui accompagnent cette communauté-là vraiment de manière... Et ça déborde... Je dirais que c'est une façon de faire église à l'extérieur de l'église aussi. Ça, c'est peut-être une façon de vivre la mission aujourd'hui.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, en fait, par exemple, je pense à Jocelyne, Alain et Jean qui sont à Opitchouane, donc en territoire Atikamekw, le Nitaskinan. Récemment, il y avait une semaine consacrée à la notion du deuil. La communauté d'Opitchouane a été frappée par plusieurs décès dans les derniers mois. Et ils ont organisé... La communauté a organisé donc une semaine sur le deuil, sur le comment vivre le deuil, comment le vivre ensemble. Et Jocelyne, Alain notamment, donc Alain Bilodeau qui est diacre avec sa femme Jocelyne, était avec la communauté là-bas et ont participé à cette semaine vraiment de où tout le monde prenait soin de chacun et chacune. Pour moi, c'est faire église à l'extérieur de l'église. Ça. C'est un exemple. Je pense, par exemple, aussi à Marilyn Roy, qui est à Koudjouak, donc en territoire inuit, et qui enseigne à l'école de Koudjouak et qui s'occupe en même temps de la communauté chrétienne là-bas. Ouais. Ben, elle fait église autrement. Elle vit sa mission, pas seulement à l'église, elle le vit aussi dans le cadre de sa présence, de son travail au quotidien auprès des enfants inuits. Donc, il y a un élargissement, je dirais, ou une actualisation de la notion de mission, et ça se vit sur le terrain très concrètement par les intervenants pastoraux que Mission chez nous soutient.
Et vous-même, Mathieu, en fait, depuis 3 ans et demi que vous êtes là, directeur, est-ce que, j'imagine, la question est un peu convenue, j'en conviens, mais quand même, vous avez été... intérieurement ému, mouvementé, converti, j'oserais dire, par votre travail auprès des Premières Nations, avec les Premières Nations?
Ah oui, clairement. Clairement, à plusieurs niveaux. Au niveau du le rapport au territoire justement je peux pas dire que je vois le monde urbain de la même manière là. D'ailleurs j'avais entendu en entrevue Mélissa Molène-Dupuis donc militante Innu, animatrice radio à un moment donné elle sort en entrevue elle dit ouais mais la forêt est partout même quand on est en ville dans le fond avant c'était une forêt. C'est genre de phrase moi qui me bouscule. Je me dis mais oui, dans le fond c'est vrai. La forêt est partout, puis même la ville. Ben avant c'était une forêt. Ça permet d'avoir un autre rapport. Justement, une réflexion sur le développement économique, sur notre rapport à l'hydroélectricité notamment au Québec. Puis je dirais que spirituellement aussi il y a quelque chose du côté autochtone. Je l'ai senti. Particulièrement un milieu Atikamekw, un milieu Innu notamment, que je connais peut-être un peu mieux. cette espèce de présence du sacré partout. Tout est sacré au sens où, évidemment, ça implique donc un autre rapport au temps, notamment. Oui. Donc tout est le sacré partout. C'est pas compartimenté. Alors que chez nous occidentaux, souvent, on va vivre notre spiritualité d'une manière, des fois, de manière plus cloisonnée. Ça fait pas partie du quotidien nécessairement, ou beaucoup moins, en tout cas, clairement, qu'en milieu autochtone. Cette idée de présence, hein, j'ai interviewé, entre autres, pour l'émission Confluent, des artistes autochtones. Je pense à Soleil Launière, une artiste Ilnou, flamboyante, magnifique, qui, en entrevue, me dit, tu sais, quand je fais des performances théâtrales, je sens que mes ancêtres sont là.
Oh! D'accord, donc on a vraiment un autre lien.
Exactement.
Et le lien spirituel, lui, demeure dans tout ce qui est quotidien, finalement.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment pas segmenté. Donc, c'est ce genre de rencontre qui... Je dirais qui me transforme intérieurement, qui m'amène à me questionner sur mon rapport au monde, rapport à notre histoire aussi. Hein, je suis historien de formation, donc oui. C'est ça aussi que ça vient. Ça vient vraiment me désarçonner par moment, me faire bouger intérieurement, ça c'est sûr.
Ouais. Ben Mathieu, justement, je saute sur l'occasion. L'historien en vous, l'historien, comment réagit-il quand il côtoie les Premières Nations? Parce que bien sûr, l'histoire du Québec, on l'a raconté d'une certaine manière, mais ça incluait les Premières Nations de l'extérieur. On ne donnait pas le point de vue des Premières Nations. Nous avions notre propre point de vue. Quand vous avez commencé à fréquenter et à travailler avec les Premières Nations, comment l'historien en vous, en fait, a réagi?
Ben, ça vient, entre autres, ça devient une opportunité de regarder l'histoire collective, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire à la limite de l'Amérique en entier.
Ouais.
L'histoire familiale aussi, je dirais, étant donné que je viens de la région de Mirabel, donc pas très loin d'Oka. Un de mes premiers souvenirs politiques, c'est la crise d'Oka. J'avais 8-9 ans. Ça m'a fait replonger dans tout ça, revoir ces événements-là autrement. Là, je pense entre autres aux événements d'Oka. Ça me fait... Donc, l'historien aussi, j'ai été très sensible à une réflexion qu'amène l'anthropologue Gilles Bibeau dans un de ses livres. Il dit que les Québécois, les Québécoises, on doit apprendre à avoir une histoire à part égale. Et ça, pour moi, ça a été très éclairant comme notion, c'est-à-dire notre récit collectif, il faut vraiment qu'il soit à part égale, c'est-à-dire rééquilibrer notre regard puis notre façon de se raconter collectivement. Et quand je dis se raconter, c'est vraiment toutes les personnes qui vivent sur le territoire du Québec. Donc d'intégrer le point de vue autochtone dans nos grands récits, d'accepter comme historien, accepter de faire de la place à l'histoire orale, hein, pas juste l'histoire basée sur des documents, des sources écrites. Donc ça aussi, c'est un travail en milieu universitaire. Là aussi, il y a du mouvement, là, donc de vraiment valoriser de plus en plus, faire la place à l'histoire orale, aux récits, aux légendes, aux mythes, dans notre façon de concevoir, de bâtir nos récits historiques. Donc, je dirais que l'historien en moi, c'est un peu comme ça qu'il réagit, tout ça.
D'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de l'oralité, parce que là, on est à la radio. Vous avez une émission qui raconte, ou en tout cas qui rencontre, qui fait la promotion, j'oserais dire aussi de gens qui proviennent des Premières Nations. Et avec les outils modernes, finalement, tout ce qui est oral, tout ce qui est récit oraux, on va pouvoir davantage le conserver, ou en tout cas en conserver des traces beaucoup plus fortes, peut-être... Pensez-vous, ou peut-être que je me trompe?
je pense que les deux, on n'est probablement pas très objectifs parce qu'on adore la radio, mais je pense que la radio et le balado, entre autres, permettent à plusieurs personnes autochtones de prendre la parole, d'être présents dans l'espace public de manière beaucoup plus intense qu'auparavant. Et pour nous, pour Mission Chez Nous, avec l'émission Confluent, on va avoir beaucoup plus de réponses positives en milieu autochtone si on demande d'aller discuter, faire une entrevue radio, que par exemple de demander des textes. Donc, ça devient une occasion de rencontre. Donc, on fait de la radio, on va sur place, Catherine Ego et moi, Catherine avec qui je co-anime l'émission. Donc, on va sur place et on rencontre les gens. Et oui, ce faisant, on crée comme des archives de ces prises de parole-là. J'espère, en tout cas, que ces prises de parole-là vont ainsi s'inscrire dans la durée.
Ouais.
Puis ça va devenir un témoignage d'une période assez intense, celle qu'on vit en ce moment. Puis je peux pas m'empêcher de penser que peut-être mes garçons un jour vont aller peut-être écouter une ou deux entrevues, puis ça va devenir une trace, justement. Puis j'y crois à l'importance de ça. J'y crois à l'importance des prises de parole dans l'espace public et à leur pérennité, là. Ouais.
Mathieu, bon, on a parlé un peu d'histoire. Je vais faire une parenthèse sur la question nationale, oui, le nationalisme. Mm-hmm. Le nationalisme, en fait, québécois, peut-il, en fait, intégrer ou ne pas intégrer? C'est une question que, là, vraiment, c'est mille et une réponses, peut-être. Je sais qu'on n'a pas le temps d'y aller très loin, mais parce que ce nationalisme-là québécois, bien sûr, a été empreint de la tradition religieuse. Et là, maintenant, il est autre chose. Mais c'est quand même une question identitaire importante. Comment on peut le construire avec les 11 nations qui habitent ici, puis si j'inclus la Québécoise, 12, c'est un grand défi, et c'est un défi qui est vraiment pas facile présentement, étant donné qu'il y a beaucoup de guérisons qui doivent se faire, qui doivent s'opérer.
Mm-hmm. Ouais, c'est une grande question. Étant donné le temps qui manque, je vais prendre un angle, celui de la langue, tiens. Donc la dimension linguistique, quand même un marqueur identitaire fort au Québec.
Oui.
La langue. Je me dis oui, comme nation francophone en Amérique, donc on est conscient de la fragilité donc de la langue française dans ce contexte nord-américain. À partir de cette prise de conscience de la fragilité, je me dis que on peut être des alliés auprès des premiers peuples qui, ces nations-là, hein, vivent une fragilité linguistique encore plus grande que la nôtre. Donc, si un peuple en Amérique qui peut résonner à cette fragilité linguistique du côté autochtone, c'est bien le peuple québécois. Et on peut donc marcher ensemble et on peut s'allier dans ce désir-là de justement s'inscrire dans la durée et de sauvegarder nos langues et surtout ce qu'elles portent comme culture, comme repère, comme marqueur identitaire. Donc il y a des éléments comme ça où on peut faire route ensemble. Puis je pense au niveau, par exemple, si on parle de nationalisme économique, ben pour moi c'est pas antagonique au sens où des projets économiques qui sont faits de manière respectueuse des Autochtones, où on les implique dès le début du projet, pas en cours de route, là, juste mm-hmm. pour... Non, dès le
la
début.
Façade.
Ouais. C'est ça. Des projets économiques qui sont pensés avec les premiers peuples, ces projets-là vont être plus forts, vont être beaucoup plus sains, vont avoir une acceptabilité sociale beaucoup plus grande, et tout le monde va y gagner. Donc, je pense que ce sont des nationalismes qui peuvent ensemble s'épauler. Donc je le vois vraiment comme ça. Pour moi, on n'est pas dans une dynamique de lutte, mais plutôt dans une dynamique vraiment du marché ensemble.
En terminant, Mathieu, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un avant et un après visite du pape François en juillet 2022? Hein, tout le monde va se rappeler de cette visite historique.
Oui.
Le pape François vient. Est-ce que vous avez remarqué, parce que vous étiez déjà directeur de mission chez nous à ce moment-là, est-ce que vous avez remarqué vraiment une différence avant, après pape François?
Je vais y aller avec en deux temps.
D'accord.
Si on regarde du côté autochtone, je dirais que ça a eu un impact, il y a peut-être, je sais pas si on peut dire un avant ou un après, mais en tout cas, il y a eu un impact du côté des aînés autochtones. Donc ça, je pense qu'on peut dire que la visite papale a eu un impact bénéfique du côté des aînés autochtones, particulièrement des personnes autochtones qui ont été au pensionnat, puis j'ajouterais peut-être des personnes autochtones qui ont été au pensionnat et qui sont encore proches de l'Église, qui sont catholiques.
Mm-hmm.
Donc ça, ils sont encore nombreux. Ça, oui, il y a eu un impact. Cette visite-là a été, pour certains, a été un baume, a été vraiment un pas sur le chemin de la guérison. Du côté des plus jeunes autochtones, je pense qu'il faut nuancer. Les jeunes, je pense pas qu'ils ont eu... je pense pas qu'il y a eu le même impact du côté de la jeunesse autochtone.
D'accord.
Face à cette visite-là. Du côté des Québécois, je dirais que particulièrement les Québécoises, Québécois près de l'Église catholique, il y a un avant et un après, ça c'est certain. Ça a été un moment de forte sensibilisation dans les réseaux d'Église, ça je l'ai vu. Et le téléphone de mission chez nous s'est mis à sonner pas mal dans les mois qui ont suivi la visite papale pour participer à des ateliers de sensibilisation, donner de la formation. Donc, dans les réseaux d'Église, il y a clairement eu un avant et un après.
D'accord. Donc, vraiment quelque chose qui est important. Il nous reste environ 2 minutes, Mathieu. Quels sont les points fondamentaux pour que le dialogue continue entre allochtones et nations autochtones?
Je pense que pour qu'un dialogue ait lieu et donc qu'il puisse continuer ou juste s'initier, débuter, ben c'est l'écoute, hein, c'est la posture d'écoute. Je pense que du côté allochtone, il faut vraiment être en posture d'écoute. Et d'ailleurs, quand on demande à des leaders autochtones, ah mais qu'est-ce qu'on peut faire nous allochtones pour participer à ce chemin de réconciliation, la réponse qui vient souvent, spontanément, c'est ben informez-vous. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Donc, ça veut dire, oui, d'écouter, de s'exposer à des récits autochtones. Le cinéma, la littérature autochtone sont en ébullition. La musique autochtone, d'autant encore plus. Et aussi, prendre en charge notre propre éducation sur les questions qui touchent les premiers peuples. On peut pas s'attendre à ce que les personnes autochtones qui sont... Je sais pas, je me rappelle plus, mais je pense à environ 3 ou 4% de la population au Québec. On peut pas demander à ces personnes-là de prendre en charge l'éducation de 97% du reste de la population. Donc, il faut s'informer nous-mêmes donc sur les questions autochtones, notamment, évidemment, en écoutant des balados, en lisant, s'abonnant à différents médias, en s'exposant donc à des œuvres aussi autochtones, des expositions d'art autochtone de plus en plus accessibles, nombreuses. Alors, c'est de s'exposer et ainsi mieux comprendre les points de vue autochtones, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une diversité aussi dans le monde autochtone.
Oui, on n'est pas tous sur la... Non, homogène, là.
Non, du tout. Donc, il faut prendre conscience de cette diversité-là. Aussi, il y a des outils, hein. Vous savez, un organisme comme Mikana, notamment, produit des outils qui nous permettent justement d'apprendre les grandes lignes ou apprendre même le vocabulaire qui est ajusté, une espèce de guide du parfait allié là qui peut se trouver sur le site de Mikana et d'autres organismes comme le réseau autochtone de Montréal. Alors donc voilà, je pense que un élément fondamental pour que le dialogue continue, c'est se mettre en posture d'écoute et s'auto-éduquer sur ces grandes questions qui touchent les premiers peuples.
En tout cas, je vais inviter les gens à se rendre sur votre site web missionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchezmissionchez l'information, téléphoner à Mathieu.
Certainement.
Ouais. Et de aussi se mettre en lien avec des communautés, poser des questions, oser poser des questions également, parce que des fois les gens osent pas, ils ont peur de brusquer, ils ont peur de se faire dire, ben là franchement, ça, pose pas ça. Chez Mission Chez Nous,
Mathieu. Il faut pas avoir peur. Voilà, il faut pas avoir peur de poser des questions. C'est mieux poser des questions que de plonger de manière un peu trop maladroite. Donc oui, juste le petit doute raisonnable, juste pour aller poser une question.
Voilà.
Et si on se trompe, là, c'est juste l'occasion de rire ensemble.
Voilà.
Et le rire en milieu autochtone, c'est la clé. Là.
Bon.
L'humour en milieu autochtone, c'est la clé de la rencontre puis du dialogue.
J'allais dire, c'est ce que partagent les Québécois et les Autochtones, parce que les Québécois
éléments,
aiment beaucoup rire également. Merci beaucoup, Mathieu Lavigne, et bonne fête.
Merci. Merci, Mario, un grand merci. Au revoir.
Alors, je rappelle, Mission Chez Nous, fête ses 30 ans cette année, missionchezneux.com. C'est tout simple et vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le travail que fait Mission Chez Nous, solidarité chrétienne avec les peuples autochtones. Merci beaucoup à Yannick Caron qui était à la technique aujourd'hui. Merci à Daniel Fortin. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le gracieux soutien de la Fondation Lucien Labelle pour réaliser l'émission. Merci beaucoup aux stations de radio, Radio VM, Radio Galilée. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.